Bienvenue pour cette rencontre avec Pierre Bordage, donc l'ami de Pierre Bordage qui est à ça, qui est invité et qui fait sa première convention. Donc je pense que notre première question concernera ses impressions sur la Convention nationale de science-fiction. Que tu nous dises un petit peu tes impressions, ce que tu en penses, l'ambiance, voilà, ce que tu après. Et puis je finis de te présenter, d'accord ? Voilà. Donc Pierre, c'est un des plus grands écrivains de science-fiction contemporain. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vrai que Pierre, je dirais, est un romancier populaire, hein, dans le sens le plus noble du terme, médiatique, ça c'est le sens universitaire, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'il vit de son art, hein, voilà, ce qui n'est malheureusement pas le cas de tous les romanciers aujourd'hui, et encore moins évidemment des romanciers de science-fiction. Il possède un lectorat fidèle, divers et nombreux. On peut le voir à chaque festival parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, hein, qui te suivent, qui suivent ton œuvre, qui viennent demander des dédicaces. Donc je pense qu'il y a vraiment une marque Pierre Bordage, et puis on essaiera de voir dans cet entretien en quoi consiste cette marque de fabrique. Voilà. Et enfin Pierre, que vous connaissez quand même bien. Pierre Bordage est un Vendéen de racines et de cœur. Nous y reviendrons donc dans ma première question. Et il vit aujourd'hui dans le sud-ouest, en Lot-et-Garonne, et il a rejoint ainsi la grande famille des écrivains aquitains. Et ça, j'en suis quand même particulièrement fière. Tout le monde, enfin je veux dire, est fier de cela. Voilà. Donc ma première question, Pierre, donc tu es un Vendéen. Je dirais un homme et un écrivain né dans un terroir singulier et particulièrement fort, hein, avec une identité, une nature très forte. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelques éléments de ta vie qui permettent d'expliquer cette identité particulière et pourquoi tu tiens précisément à la Vendée? Et en quoi cette vie vendéenne, cette naissance finalement vendéenne, a-t-elle influencé ton œuvre et pourquoi pas ton existence?
Je croyais qu'elle m'enguerrait une malédiction. C'en est une, hein. Ah, il y a un deuxième, là. Ouais. Bah oui, je suis né dans une ferme, hein, directement, sans passer par la case maternité, entre la vache et l'âne. Ah non, ça, c'est un autre. Donc, évidemment, ça m'a marqué. Mon enfance a été vraiment marquée par l'appartenance à cette ferme qui était isolée, et où il fallait faire 4 km à pied pour aller à l'école à partir de 3 ans. Sous la surveillance des grands, c'est-à-dire de 10 ans, l'âge de 10 ans, un groupe d'enfants qui étaient mes cousins et les voisins de la ferme d'à côté. Donc j'étais très marqué par cette nature, effectivement, de bocage vendéen. Et puis j'ai toujours senti dans le pays une sorte de souffrance qui était inexprimée et qui était liée à des racines très profondes, enfin qui date exactement de 1794. Je pense que les Vendéens avaient été niés par l'histoire et que quelque part ils portaient cette tâche sur eux ou en eux, et que ça créait une identité très particulière au pays. Mes parents de métayers, comme je ris dont on a parlé hier, semblaient des gens prêts sans cesse à raser les murs, parce que comme s'il ne fallait pas déranger quelque chose. Donc cette modestie forcenée m'a beaucoup marqué et m'a aussi interrogé, enfin m'a poussé à m'interroger sur l'histoire de la Vendée. Ce qui m'a valu créer le cycle Jeux mineurs, comme si je devais quelque chose au pays, outre la brioche et les mojettes, que je ne sais pas si vous connaissez. Oui, tout le monde connaît. Donc, j'ai été marqué par mes racines vendéennes, au point que j'y reviens régulièrement lors de cousinades et tout ça, où mes cousines sont tellement ravies de me voir. Mais ça ne m'a jamais empêché d'aller m'installer ailleurs, paradoxalement. C'est-à-dire que j'ai jamais hésité à partir soit aux États-Unis, soit en Dordogne, soit à Paris, pour connaître du pays. Ça ne m'a jamais gêné, mais je retrouve toujours avec plaisir mes racines vendéennes. Et en même temps, je pense que je suis un écrivain rural, principalement. Dans la SF, j'ai rencontré peu d'écrivains ruraux. Moi, je n'ai pas connu Michel Jury ou Son Otard, donc avec la même trajectoire que la mienne, quasiment. Donc je suis vraiment un écrivain rural, un écrivain des sensations, des plongées dans la nature, des respirations, du vent, de la pluie, enfin de tous ces éléments qui constituent la terre, tout simplement.
Et Pierre Pelot, tu
as passé ça? Oui, alors, si, je connais Pierre Pelot. Alors lui c'est le Vosgien, donc c'est l'homme rude des Vosges et des forêts. C'est vrai que lui aussi est marqué par son histoire, parce qu'il a fait son livre sur la guerre de 30 ans, qui semblait venir à cœur. Voilà, donc on a quelques-uns comme ça, je pense. Simak aussi, l'américain, qui avait apparemment quelque chose de très rural. On le voit dans City d'ailleurs, où demain les chiens, où il imagine que chacun a son petit avion atomique pour rentrer chez lui à la campagne. Donc il y avait un côté rural. Après, je ne sais pas comment ça marque certainement dans l'écriture, certainement dans les lectures. Moi, je n'ai pas eu accès à la science-fiction tout de suite, hein, parce que les paysans vendaient à la science-fiction, c'est un peu antinomique. Donc, mon accès à la culture, ça s'est fait par l'intermédiaire d'un oncle qui était prêtre, et accessoirement mon parrain, qui m'offrait à chaque anniversaire des contes et mythologies du monde entier. Vous savez, une petite collection Nathan, je crois, blanche, une couverture cartonnée, agile et dorée. Et donc, je me suis délecté, je me suis nourri, abreuvé de ces récits mythologiques, ce qui, à mon avis, autant que mes ascendances rurales, marque ma façon d'être et d'écrire. Je pense que je suis simplement un écrivain qui reprend des schémas narratifs existants depuis la nuit des temps, et que mon maître à moi, finalement, c'est Homère, des gens comme ça, ou le mythe de Gilgamesh, enfin, etc. J'ai l'impression de n'avoir rien à avoir inventé depuis. Moi, je n'invente jamais rien, je pense, et d'être vraiment, d'avoir repris peut-être le sillon creusé par les anciens comme ça, avec, à l'aune de cette technologie moderne qui modifie un peu la perception, mais ne modifie en rien, je pense, la nature d'être humain. Attention.
Alors, justement, Pierre, est-ce que tu pourrais nous raconter comment est née ta vocation d'écrivain ou ton envie d'être écrivain? Est-ce que cela est parti de lectures particulières? Quand j'avais interrogé Michel Jury à ce propos, Michel disait qu'il avait finalement eu des lectures très très diverses, hein, des lectures très populaires, d'aventures, mais également parce qu'il n'avait pas non plus beaucoup d'accès, je dirais, à la culture. Il est tombé un petit peu par hasard sur la science-fiction et ça l'a totalement fasciné. Alors, je crois que tu as quand même eu un accès à la culture qui était évidemment plus développé, un accès à cette lecture. Et donc, voilà, comment est-ce que tu es passé, comment est-ce que tu as forgé finalement ton identité de lecteur et puis après ton identité d'écrivain ou ta naissance en tant qu'écrivain?
Mais ça, c'est étonnant parce que j'ai appris à écrire au CP, tout le monde. Enfin, moi, c'était à Simon Lavineuse, donc le CP, c'était une sorte de grande classe fourre-tout entre 8 et 14 ans. Et dès que j'ai su écrire, j'ai envie de raconter des histoires. C'est bizarre, même avant de lire, j'ai envie de raconter des histoires. Et puis, mon institutrice, c'était la bonne mère, c'était la sœur en chef du village, qui nous donnait une rédaction par semaine, et j'adorais faire cette rédaction. Et elle lisait la meilleure rédaction de la semaine. À haute voix, et souvent c'est la mienne. Donc je pense que dès que j'ai commencé à écrire, j'ai eu quelque chose à faire pour raconter des histoires. Bon, après, les lectures m'ont nourri, donc je parle de la mythologie, tout ça. Puis je me suis retrouvé au séminaire, et au séminaire, je me suis nourri de Verne, mais pas Jules, Henri. C'est-à-dire, en gros, c'était Bob Moran. Je me suis gavé de Bob Moran pendant des années. Et en sixième, j'ai écrit un premier roman qui s'appelle Secret du parchemin perdu. Genre de titre qui doit être super bateau et qui faisait 250 000 fois à peu près. Et un petit livre que j'ai écrit, que j'ai illustré, que j'ai moi-même découpé et relié avec une agrafeuse. Et quand je l'ai présenté à mon prof, il me dit « Où t'as copié ça ?» Je me suis fait engueuler, en gros. Et j'ai refoulé mon envie d'écrire, surtout qu'à partir du collège, enfin séminaire-collège, parce que c'est la même chose, on commence à faire des rédactions analytiques et ça ne me plaisait pas du tout. J'avais pas envie de faire ça du tout. Donc j'ai perdu l'habitude et l'envie d'écrire. Et j'avais toujours jamais lu un livre de science-fiction. Et jusqu'à la terminale, ça a été comme ça. L'écriture m'est complètement passée. J'ai plus envie d'écrire. Donc j'ai péniblement achevé mes études scolaires en lycée. Puis je me suis retrouvé à la fac. Et la fac, pour moi, la première année de la fac était une bénédiction pour moi parce que, d'une part, j'ai redécouvert la science-fiction par le biais d'un atelier de littérature comparée. Ça va, Claire? qui a été consacré à la science-fiction de l'âge d'or américaine. Donc j'ai découvert la science-fiction à la fac, donc c'est pour dire si j'étais tardif. Et le premier bouquin, c'était, bah, comme a dit Olivier tout à l'heure, c'était Chronique martienne de Ray Bradbury, donc même origine commune. et Demain les chiens de Simac, donc on a parlé, etc. Et j'ai découvert que la science-fiction me procurait exactement le même vertige que j'éprouvais enfant en lisant Les Mythologies. C'était exactement le même décollage de ma réalité, la même projection dans l'espace-temps. Et je me suis dit, ouais, ça c'est ça que j'ai envie de lire, ça que j'ai envie de faire. Et puis, par le même temps, j'ai fait partie d'un cours de création littéraire, un atelier de création littéraire qui était géré par un prof complètement barjot. Alors le mec, il me disait, moi je m'en fous totalement de ce que vous écrivez, moi je veux que vous remplissiez des pages et je vous note le nombre de pages. 10 pages égale 20 points. Bon. Pareil, on pouvait reproduire de manière téléphonique, répéter indéfiniment le même mot comme on écrit des lignes, vous savez, quand on est puni. Il y avait même un poète dans le cours qui faisait du trou dans une page et il faisait un trou, puis après, en dessous, il marquait page, 4 points. Donc c'est un principe un peu bizarre, mais ce principe avait une vertu finalement, sans qu'ils nous le disent, c'est que comme on fait les choses au dernier moment quand on est étudiant, parce qu'on a tellement de choses à faire, entre autres jouer au baby-foot et au flipper. J'écrivais ça à 3 h du matin pour le lendemain, et donc, comme je n'avais pas le temps, j'écrivais un peu n'importe quoi, tout ce qui me passait par la tête. Et ce principe-là a fait sauter le bouchon scolaire. Désolé pour les profs de français, mais je vous explique comme ça maintenant. Je regarde Daniel parce que. que moi, je m'étais mis parce que ça ne m'intéressait pas de faire des rédactions analytiques, des analyses de je ne sais pas quoi. Et donc, je me suis remis spontanément à écrire des histoires, et comme j'avais découvert la science-fiction à ce moment-là aussi, naturellement, j'ai fait des histoires de science-fiction sans me poser des questions et sans savoir que j'appartenais à un courant de science-fiction. Et la deuxième année de fac, troisième inter de la première année, j'oubliais, j'y ai rencontré ma femme, celle qui allait devenir ma femme. Cette année, première année universitaire, était très très riche pour moi. Deuxième année de fac, évidemment, j'ai écrit mon livre, du coup. J'étais pion et pendant que je surveillais les études des élèves, eh ben, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle CH2O. Qui est un bouquin en partie raté, voire totalement, non, partiellement raté, parce que moi, ayant aucune connaissance du milieu de la science-fiction de l'époque, pensant que n'importe qui pouvait publier de la science-fiction ou des textes de science-fiction, j'ai envoyé ça à Gallimard, Grasset, enfin, je recevais des réponses négatives, bizarrement, avec cependant, ce que j'ai compris après, c'est une sorte de degré d'interprétation des réponses des éditeurs. Et il y en avait une à laquelle je n'ai pas prêté attention, ou j'ai prêté attention longtemps après, c'est celle de Grasset qui me fait une critique circonstanciée du livre, ce qui était un encouragement terrible à continuer. Mais je ne l'ai pas pris comme ça, j'ai dit non, il n'en veut pas non plus. Et puis j'ai fini péniblement aussi mes années universitaires, j'ai passé une maîtrise, et puis je suis parti travailler. Et puis différents concours de circonstances m'ont emmené dans le Gers, donc on revient dans le sud-ouest. En 85, je suis sorti d'une tournée de foires et de salons où je vendais des tapis. J'avais un peu d'argent, donc j'ai de nouveau eu l'envie d'écrire et j'ai écrit Les Guerriers du Silence sur un cahier pendant 6 mois. Voilà. Et ça s'était lancé comme ça, sauf qu'il a fallu attendre 8 ans pour moi pour être publié. Enfin, on a eu tout un tas de refus, de portes fermées, tout ça, parce que j'ignorais totalement aussi l'état de la science-fiction de l'époque, c'est-à-dire où les auteurs français étaient cantonnés dans des collections de poche, exclusivement, sans accès au grand format et tout ça. Il a fallu que je découvre la Talente, qui était aussi innocente que moi dans le milieu, pour qu'il accepte de prendre le livre et de faire en grand format. Donc voilà, la carrière a été lancée comme ça.
Ah oui. Tu sais, ce qui est très intéressant, c'est d'abord, je vais revenir là-dessus, tu écrivais sur des cahiers, donc ça veut dire que tu as des manuscrits, tu as tes premiers manuscrits, tu les as donnés, il me semble, à la BNF.
Oui, tout à fait.
Hein, c'est ça, voilà. Donc avis aux chercheurs, hein, ceux qui voudront travailler sur voilà, les manuscrits de Pierre Bordage, ils sont à la BNF. Et maintenant, tu écris donc sur ordinateur, donc
Non.
il n'y a plus de manuscrits et
Plus
tu
de
ne
traces.
gardes pas du tout les différentes étapes de ton écriture.
Non, non, je ne suis pas du tout attaché ni aux objets, ni à quoi que ce soit, donc j'ai dispersé ça volontiers, ça m'encombrait plus qu'autre chose.
Oui. Alors, je t'avais entendu raconter une fois comment tu travaillais, parce que tu es un écrivain qui est quand même très prolifique, tu produis beaucoup, et donc est-ce que tu peux nous dire en fait comment tu travailles? Est-ce que tu travailles régulièrement? Est-ce que tu te forces à écrire? Est-ce que tu as des périodes où voilà, c'est faste et tu vas écrire 40 pages d'un seul coup? Voilà, en tant que c'est sur l'ordinateur, bien sûr. Donc,
Je crois que c'est Asimov à qui on a demandé comment écrivez-vous, maître, mais comment écrivez-vous? Et il disait, j'approche mes doigts du clavier et je tape. Donc, je fais un petit peu comme ça. Je me fixe des heures. En fait, je me suis fixé très tôt des heures parce que mes enfants allaient à l'école, j'ai récupéré le soir, j'ai mettais le matin. Et donc, j'avais toute la journée pour écrire. Et je me suis fabriqué des journées de fonctionnaire très rapidement, c'est-à-dire de 8h à 8h30 jusqu'à 18h à peu près le soir d'écriture. Ce qui fait que j'ai pu avoir une production régulière que j'ai estimée, évaluée à 10 pages par jour. Les 10 pages de 2200 signes au jour, qui est ma moyenne. Et pour moi, une journée correcte d'écriture, c'est 10 pages de 2200 signes. Enfin, j'ai calculé ça après, parce que je ne savais même pas ce que c'était des signes au départ. Et donc, après, il y a des journées plus fastes. Souvent, les journées fastes, c'est quand l'éditeur appelle. Il faut lâcher les chevaux parce qu'il attend le manuscrit avec impatience. Donc à ce moment-là, j'accélère le mouvement. Et puis il y a des journées moins fastes, par exemple le début d'un roman où je cherche l'angle, le nom des personnages, les mondes à poser, et je suis à peu près à 3 pages, 2-3 pages par jour. Mais la locomotive étant lancée, elle fait du 10 pages jour, hein, mais c'est très régulier, hein, vraiment. Ce qui fait qu'après, c'est facile à calculer. Quand vous faites travailler 20 jours à 10 pages, ça fait 200 pages, etc. C'est peut-être ça la productivité, c'est-à-dire que pour moi, il n'est pas question d'attendre l'inspiration, parce que si je continuerai d'attendre encore, et je pense que finalement le roman, une fois l'inspiration première, c'est du travail, c'est de la construction quotidienne. Tu as parlé d'artisanat pour jury hier, et je pense que je suis dans cet artisanat du maçon qui construit sa maison patiemment, jour après jour, brique après brique, et puis qui met le toit, etc. J'ai une période que je n'aime pas du tout, c'est celle des corrections. Parce que j'ai tendance à vomir le texte. Toi aussi ?
Solidarité.
Comment ?
Solidarité.
Ouais.
Ça, je crois que c'est...
On est tellement sur le texte que on voit que les défauts, on a l'impression qu'ils n'intéressent personne. Et on se pose la question de savoir, mais qui suis-je pour écrire et imposer des histoires à des gens ? Cette période-là est très pénible. Donc je fais quand même mes corrections, celles que j'ai notées moi, puis j'envoie à l'éditeur, et l'éditeur me renvoie. L'éditeur qui était très pressé d'ailleurs d'avoir le manuscrit, d'un coup il est beaucoup moins pressé de me le rendre, comme si c'était une mesure de rétorsion. Et donc c'est moi qui attends avec impatience le compte-rendu de l'éditeur. Et quand l'éditeur m'appelle, il me dit « Pierre, j'ai lu ton manuscrit, je suis très impatient de savoir. » Puis lui, il fait traîner évidemment. Il se passe un peu de temps et je reçois le manuscrit de l'éditeur annoté. Et donc je commence à avoir un regard un peu plus distancié sur le texte, peut-être un peu plus juste sur le plan esthétique. Olivier a parlé de Mireille, bon, c'est vrai, ça dans le cas, il y a quelques annotations au crayon. Par exemple, il y a une phrase que je trouve très jolie au début du roman, vraiment très jolie. Quoi. Je suis fier d'avoir trouvé cette phrase, et puis je la mets une deuxième fois tellement elle est jolie, et une troisième fois, mais au bout de la dixième fois, ça se voit. Et l'éditeur souligne en disant « Bordagisme ». Donc c'est très bien d'avoir le regard éditeur parce que ça permet de repérer les types d'écriture, il y en a pas mal. Mais pour moi, je pense qu'un roman, s'il a à peu près réussi, il ne doit pas excéder une journée de correction. Voilà. Donc ça va assez rapidement. Évidemment, ce n'est pas structurel, parce que s'il y a des corrections structurelles à faire, ça prendra beaucoup plus de temps parce que ça veut dire que votre maison ne tient pas de votre bout. Donc c'est plutôt stylistique en général, en général ça me prend un jour de correction, hein, vraiment de balayer tout rapidement. Quoi. Puis après il y a les épreuves, hein, c'est-à-dire juste avant l'édition, là encore le regard est un peu plus distancié, et je lis vraiment le roman comme une partition musicale, dont je cherche les fausses notes, traque les fausses notes, et j'essaie de les éliminer pour donner le plus de fluidité. Mon obsession en tant qu'auteur, c'est de donner de la fluidité au texte. C'est-à-dire que je voudrais que n'importe qui, qu'il soit spécialiste de science-fiction ou pas, c'est une sorte de grande ambition démesurée, hein, je le sais, qu'il soit donc lecteur de SF ou pas, puisse entrer dedans. C'est-à-dire que ce que je me dis, c'est qu'un lecteur non initié, qui n'a pas forcément les codes de science-fiction, doit pouvoir entrer dans le livre par n'importe quelle porte. Donc j'essaie de lui faciliter la tâche. Donc une partie de mon travail, ça consiste à rendre la lecture le plus fluide possible et de faire en sorte que le lecteur rentre le plus rapidement possible dans le texte. À ce titre-là, Les Guerriers du Silence souffrent de 80 pages un peu trop longues, à mon avis, au début, où il faut s'emparer du roman, faut se familiariser avec les noms, avec les univers. Et donc, si je le refais maintenant, j'en ferai différemment.
Bon, d'accord. Alors, moi, Pierre, je voudrais qu'on rentre un tout petit peu plus justement dans ton travail d'écrivain, parce que on a quasiment, je pense, tout le monde a lu évidemment tes romans. Il y a cette espèce de souffle épique dans chacun de tes romans, ça, qui, je pense, vient justement de la mythologie, certainement. Hein, tu as intégré complètement ce souffle épique dont parlait, ça c'est une expression que j'ai empruntée à Zola. Moi je voudrais savoir, voilà, tu as une idée, ça peut être un univers, ça peut être une société, ça peut être aussi, je dirais, une étape, une époque, on est en 2040, en 2060, en 2100. Comment est-ce que tu t'y prends finalement pour créer cet univers-là ou cette fiction-là? Est-ce que tu passes par d'abord... Michel Jury, par exemple, il faisait des listes de personnages, il faisait des listes de mots, il associait des mots et il partait finalement de cette association de mots pour créer une scène qui lui permettait de créer son univers. Voilà, moi ce qui m'intéresserait, c'est que tu nous racontes un petit peu comment finalement tu t'y prends pour partir, pour créer finalement un livre. Et après, est-ce que le livre s'écrit un petit peu tout seul? Est-ce que tu t'avances à l'aventure avec tes personnages, ou est-ce que tout est structuré finalement dès le départ?
Alors, pour partir, je pars. En gros, j'ai une idée, j'ai des personnages, soit un paysage, soit une envie d'explorer quelque chose. Et non, je ne fais aucun plan. Je ne peux pas faire de plan parce que si je fais un plan, je tue mon propre livre. C'est-à-dire que si je fais un plan, je n'ai plus envie de l'écrire. Donc j'évite de faire des plans. Donc je laisse vivre au maximum les personnages. Alors j'ai voulu faire une exception avec l'enjeu mineur, parce que l'enjeu mineur, c'est de la fantaisie historique, et donc il y avait la partie historique qui nécessitait une énorme recherche historique. Et donc je me suis dit, je vais baliser la route du personnage pour chercher les bons renseignements aux bons endroits, au bon moment. Ça va être pour éviter de perdre son temps, parce qu'on est dans une mer de données dans laquelle on finit par se perdre. Et donc il devait partir par là, et il est parti par là. Il m'a pas du tout suivi, mon personnage. Il m'a pas dit je vais passer par Angers-Saumur, il m'a dit je vais passer par Rennes, par exemple. Et donc il a fallu que je recommence toute ma documentation de A à Z. Et je me suis dit, mais bon, voilà, ce sont mes personnages, ils ont leur vie propre, ils ont leur caractère, je suis là pour les accueillir, pour leur faciliter, enfin pour les aider à naître, finalement, par le mot. Et donc quand ils auront besoin d'un renseignement, j'irai le chercher à ce moment-là. Donc je suis pas du tout structuré, mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire qu'il peut m'arriver, il m'arrive souvent de me coucher sans savoir du tout. Et mes personnages sont dans une sorte de merde énorme et je me dis, je sais pas comment ils vont s'en sortir. Et des fois, ça m'empêchait de dormir quasiment. Mais comment les pauvres, dans quelle situation ils se sont mis. J'ai essayé aussi une fois, parce que je me suis dit, mais dans le processus créatif, je ne maîtrise pas grand-chose et je vais essayer de maîtriser quand même, parce que bon, voilà, j'ai mon nom sur les contrats, j'ai mon nom sur la page du livre, sur la couverture du livre, et je me dis que je suis une sorte d'escroc finalement. C'est les personnages qui font tout le boulot et moi je recueille l'argent. Enfin, et puis voilà. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, mes personnages, ils en font vraiment qu'à leur tête. Ah oui, donc j'ai voulu prendre le contrôle, et dans un Roel, parce que Roel pour moi c'était très expérimental. Un Roel c'était l'écriture au ruban, c'est-à-dire 4 romans par an. Là il n'y a pas le choix, c'est obligation d'écriture, ça forge beaucoup de choses. Et je me suis dit, je vais faire un plan pour c'était le troisième Roel, un monde des franges. Et je vais faire le plan. Je fais un plan, super détaillé et tout, et j'ai tué le livre en 50 pages. 50 pages plus tard, je me suis dit, ne m'intéresse plus d'écrire ce livre, il est mort. Il n'y a pas d'ouverture. Donc j'ai appelé l'éditrice à ce moment-là, Léroël, et je lui ai dit, écoute, je me suis planté. Elle me dit, recommence tout, puis tout recommence tout. Et je suis parti, j'ai tout élargi, j'ai rien contrôlé, et c'est le pied, quoi, ne rien contrôler, le bonheur total. Voilà. Alors les gens me disent après que c'est structuré, tes livres sont structurés, ils ne croient pas trop au fait que je sois structurant, parce que les livres sont très structurés. Ou jardinier, hein, parce que je crois que les Canadiens disent jardinier architecte. Je ne suis pas architecte, je suis plutôt jardinier. Et je pense que l'inconscient, pour moi, organise mieux que le conscient. C'est-à-dire, les solutions sont apparemment supérieures dans le monde inconscient que dans le monde conscient, donc je fais beaucoup confiance au livre qui est en train de s'écrire à travers moi. À ce titre-là, je ne me considère pas comme l'auteur des livres, mais comme l'accoucheur du livre qui passe à travers moi, et l'écriture est la façon d'accueillir le livre. Je suis sage-femme du livre, je ne sais pas si ça se dit.
Tu fais de la maïeutique, je sais
pas. Oui, c'est une sorte de maïeutique, oui, mais vraiment, je ne peux pas faire autrement. Il y a un exemple dans Les Guerres du silence, il y a un personnage que pas mal de lecteurs aimaient beaucoup. Ils m'ont demandé pourquoi il était mort, pourquoi je l'avais tué. Il s'appelle donc Choupé. Il est une sorte de maître spirituel, un guerrier absurate, chevalier absurate. Et la façon dont il est mort m'a surpris moi-même. Je ne m'attendais pas du tout à ça et je me suis dit, oui, il est mort. Bon, c'est que sa mort signifie quelque chose et je lui laisse cette liberté de mourir. Donc mes personnages sont des êtres libres à l'intérieur de moi. Parfois, un personnage est un rôle secondaire et devient un rôle principal, de même qu'un rôle principal peut devenir un rôle secondaire. Des personnages s'imposent à la force du poignet, d'autres disparaissent. Enfin, c'est tout un bordel à l'intérieur, je dois dire.
Oui, mais quand même, Pierre, dans tes romans, et je pense que ça, c'est un petit peu ta marque de fabrique aussi, il y a quand même une alternance, enfin, il y a ce qu'on appelle la narration alternée, c'est-à-dire que tu vas avoir... Moi, ça m'avait marqué notamment dans l'Évangile du Serpent, où on suivait donc tes personnages qui étaient une sorte de nouveaux apôtres, et donc voilà, nouveaux évangélistes, et on avait donc les... Je crois qu'il y en avait 12, il me semble.
Il y en avait 4.
4
évangélistes, 12 apôtres, 4 évangélistes.
Voilà, c'est ça. Et on suivait en fait le parcours évidemment de chaque personnage, mais dans des chapitres alternés. Alors, moi je veux bien que tu n'aies pas de plan, mais quand même, je veux dire, est-ce que tu... Après... Donc, même si tu fais vivre tes personnages, après, tu ranges un petit peu tes chapitres, tu les structures, parce que ça crée le suspense quand même pour le lecteur, tu vois ?
Eh bien, non, ça se passe vraiment, l'écriture, c'est... je fais un chapitre, je dis tiens, c'est fini, hop, je passe au chapitre suivant, et je dis tiens, c'est fini, et je passe au chapitre suivant, tiens, c'est fini. Ce procédé m'a fait commettre des erreurs, hein, parce que après, je fais une lecture globale où j'essaie de repérer les incohérences, surtout chronologiques, parce que quand on fait une... En narration alternée, il se passe du temps entre chaque fois qu'on récupère un personnage, 4 chapitres après, il s'est passé du temps. Donc il y a une sorte de récupération à faire qui n'est pas toujours évidente, qui est un peu pénible même parfois, parce que c'est l'abondance du plus que parfait du coup. Et donc ça, c'est un peu pénible. Mais sinon, non, je bosse vraiment à la tâche, quoi. C'est-à-dire, je fais le chapitre concernant le personnage, puis je passe à l'autre personnage, etc. Ce qui a valu aussi des petits déboires à la Talente pour mon premier éditeur sur le nom d'un personnage qui avait changé au cours d'un chapitre sans que personne ne s'en rende compte. Et que le mec continuait de se battre allègrement alors qu'il était mort. Et évidemment, personne, ni correcteur, ni l'éditeur ne se sont rendu compte. Et il y a un lecteur belge qui a écrit en disant « ça ne serait pas possible ». Je vais essayer de faire l'accent belge même par écrit. C'est pas possible parce que votre personnage qui s'appelle Moscou, il est mort dans le chapitre 19 et dans le chapitre 20, ou le chapitre 23, il continue de se battre. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est un procédé science-fictif ? Il dit non, c'est une erreur. Et donc on a corrigé dans l'édition suivante. Et la même chose m'est arrivée dans Les Derniers Hommes. Dans Les Derniers Hommes, c'est paru sous forme de feuilleton Librio. Et comme je l'ai fait avec Mario Mazzori, elle m'avait dit évidemment, on écrit les 6 avant que ça paraisse, mais ça sera tranquille. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Évidemment, le premier était publié, j'étais en train d'écrire le troisième, ce qui donnait une énergie feuilletonesque radicale, parce que là, du coup, on sait que ça, on n'a pas le choix, on sait que, bon, que ça donnait une sacrée énergie. Et mon personnage, qui s'appelait Ismaïl, est devenu Ibrahim, et personne ne s'en est rendu compte non plus. Sauf un lecteur qui a écrit, disant, dans le quatrième ou troisième épisode des Derniers Hommes, notre personnage est devenu Ibrahim, alors qu'il s'appelait Ismaïl, est-ce que c'est normal ? J'ai dit, bien sûr, c'est normal. J'ai inventé une petite histoire pour justifier le truc qu'on doit retrouver dans les premiers épisodes publiés en Librio. Et cette petite histoire ne tenait absolument pas la route. C'était même parfaitement stupide. Elle tirait l'attention sur le fait que le mec avait changé de nom de façon totalement inconsidérée. Et du coup, on a corrigé ça quand on a publié l'intégrale. Et on a remis le nom Ismaïl, ou Ibrahim, je ne sais plus du coup. Et on a viré de la petite histoire qui ne voulait rien dire. Donc ça, alors j'ai tiré des leçons de ça, et après je me suis mis un cahier à côté de mon ordi, et dans le cahier je note le nom des personnages, parfois je fais un trait chronologique pour dire à quel moment s'est passée l'action, à quel moment s'est passée l'autre action, et tout ça. Mais c'est au fur et à mesure que j'écris. Le cahier ne me sert pas à structurer, mais c'est une sorte d'aide-mémoire pour que j'évite de faire des erreurs sur des erreurs sur le nom des personnages, sur leur trajectoire, sur voilà. Mais j'écris vraiment, et je pense qu'un scripturant ne peut pas faire autrement qu'écrire au fur et à mesure dans l'avancement. Moi j'admire Alain et Daniel qui sont capables de prévoir le chapitre 17 à l'avance. Qui c'est qui va l'écrire? Moi je suis totalement incapable, et comme j'ai bossé avec Alain qui est un peu structurant, il était paniqué le pauvre. Parce que son histoire se passait après la mienne, et donc il dépendait de mes informations à moi pour que lui puisse écrire son bouquin. Donc il disait, mais alors là, tes personnages ils vont devenir quoi? Je disais, je sais pas. Ah, puis, ah bah non, c'est pas possible. Et non, je te dis, je sais pas. Il me dit, si, si, faut que tu saches, parce que moi, tu sais que je dois m'occuper du petit-fils, et ils ont pas encore procréé tes personnages. Je lui dis, bah oui, ça va venir, t'inquiète pas. Et ça, c'était bon, j'ai vu la différence de fonctionnement. Et après, j'en ai discuté pas mal avec des camarades comme Ayerdal, Serge Lehmann, des gens comme ça, Laurent. Et de la façon dont chacun avait la. Sur la façon d'écrire de chacun. Et bon, il y a cette différence qui a assez marquée. Karina Rosenfeld, qui est une pure scripturante aussi comme moi. J'ai essayé de me renseigner un peu pour savoir si c'était normal ou si j'étais un gars classé dans la catégorie des auteurs farfelus. Mais non, apparemment, il y en a d'autres comme moi.
Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est je dirais, un des premiers éléments de la marque de fabrique Pierre Bordage. Et est-ce que. Moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui vis-à-vis du public et des lecteurs, c'est essayer peut-être de réfléchir à voilà, comment arriver à déterminer la nature finalement de l'écrivain Pierre Bordage. Donc, on sait maintenant que tes personnages vivent complètement une vie autonome à l'intérieur de toi et qu'ils font strictement ce qu'ils veulent. Donc, ça, c'est bien. Tu vois, moi, j'étais persuadée que c'était très structuré, bien non. Donc, voilà, je crois qu'on a appris quelque chose. Alors, justement, dans la, je pense, deuxième peut-être élément de ta marque de fabrique, et parmi les thèmes essentiels de ton œuvre, la spiritualité, au sens évidemment très large, et les voyages tiennent une immense place. Alors, moi, je voudrais te poser la question, est-ce que tu pourrais te définir comme un écrivain spirituel, peut-être dans les deux sens du terme, mais non, mais plus proche, évidemment, de la spiritualité. Et puis, comment tu te sers, finalement, de la notion d'irrationnel? Est-ce que l'irrationnel, c'est quelque chose qui mène ta vie et aussi, finalement, ton œuvre, enfin, ton travail d'écrivain?
Si je vous disais tout ce que je pense réellement, il y a la moitié de la salle qui sortirait dans les 5 secondes, mais je plaisante. La spiritualité. Alors, j'ai la faiblesse de croire, de penser que l'être humain a une aspiration spirituelle. Enfin, moi, je le ressens, comme je suis un être humain, mais je ne veux pas étendre ça à tous les êtres humains, surtout pas. J'ai une aspiration spirituelle depuis petit. Alors, ça vient de sorte de transport mystique que j'éprouvais quand j'étais gosse, qui était totalement de l'ordre de l'inconnaissable. C'est-à-dire, j'étais incapable de mettre des mots dessus. J'ai essayé cependant, et quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont envoyé au séminaire. Ce n'était vraiment pas le jeu de choses à faire, mais bon, là, j'ai fait 4 ans de séminaire où les prêtres, loin d'encourager ces élans mystiques, c'est qu'ils ont peur des élans mystiques en fait, hein, les prêtres. Ils ont cassé tout ça, ce qui les intéresse c'est de faire des soldats de la foi, pas des êtres libres dans leur spiritualité. Donc je suis sorti du séminaire 4 ans après, totalement dégoûté de la religion, et jetant le bébé avec l'eau du bain. À savoir, rien, enfin, je suis devenu purement matérialiste, style anarch de gauche, faisant plein de conneries, etc. Dans la seconde, c'était vraiment un truc, une sorte de libération. Bref, pas mal de bêtises à ce moment-là. Avec un ami qui allait devenir écrivain lui aussi, d'ailleurs. C'est ça qui est étonnant. Et donc, j'ai rejeté toute idée de la spiritualité et de la religion que pour moi, j'ai confondu à ce moment-là. Puis je suis allé en Inde en 75 à l'âge de 20 ans, et dès que je suis descendu de l'avion, j'ai respiré l'air de nouveau de l'irrationnel. Et ça m'a renoué avec tout mon passé enfantin mystique. Et je me suis retrouvé dans le pays mystique par excellence, parce que l'Inde, si vous avez des a priori rationnels, ben, vous oubliez tout de suite, parce que ça ne marche pas du tout comme ça, l'Inde, un pays totalement irrationnel. Et donc, je me suis baigné dans cette irrationalité-là, et j'ai retrouvé ces expériences, ces états que j'avais enfant. J'ai même tenu un carnet de voyage à un moment que j'ai retrouvé récemment. Bon, j'ai jeté un coup d'œil dessus, et je vois que tout ça est marqué, enfin, tout ça est inscrit sur le carnet. Et à partir de ce moment-là, je me suis consacré à la recherche spirituelle, c'est-à-dire que j'ai volontairement tourné le dos à la pensée matérielle, matérialiste. Et j'ai cherché sur une autre voie. Je suis toujours un chercheur dans cette voie spirituelle, c'est-à-dire, pour moi, la véritable spiritualité conduit à la liberté intérieure, et donc n'est pas mesurable ni quantifiable dans des plans matériels que sont par exemple les religions. Parce que pour moi, la religion, après réflexion, était la captation matérielle de la spiritualité, c'est-à-dire une sorte d'organisation destinée à enfermer la spiritualité et à en faire un instrument de domination. Et donc, dans mes livres, il y a cette espèce de... Je ne sais pas si vous connaissez Krishnamurti, les uns ou les autres, qui est un penseur indien, où il dit que la pensée crée du temps. Donc, la pensée créée du temps crée toujours les mêmes mécanismes. Et c'est la reproduction infinie de mécanismes depuis la nuit des temps, auquel le progrès ne change rien. Le progrès, c'est une avancée technologique, mais sur le plan de la nature humaine, ça ne change pas grand-chose. On est toujours contenu dans le temps psychologique, c'est-à-dire qu'on est projeté passé et futur, quand on produit toujours ces mêmes erreurs. Donc oui, se libérer du connu, c'est se libérer du temps psychologique. Voilà, on va partir dans les trucs là. et ça, pour moi, c'est l'essence de la spiritualité, c'est-à-dire se débarrasser de tout conditionnement pour considérer le moment présent comme étant le seul et unique. Ce qui rejoint d'ailleurs les Upanishads, les vieux textes indiens que je suis en train de lire, les 108 Upanishads. Donc la lecture est un peu ardue, il faut reconnaître, mais il y a des fulgurances qui me parlent beaucoup, comme ce qui n'existait pas hier et n'existera pas demain ne peut pas exister non plus dans l'intervalle, parce qu'une bénéficie de l'illusion. Et j'ai l'impression que le monde est une... Enfin, comme dans la pensée hindoue, que le monde est une illusion. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de carapace matérielle qui crée une illusion dans laquelle on est quelque part perdu. Donc voilà, ça c'est ma recherche. C'est ma recherche très personnelle, hein. Je ne veux surtout pas imposer ça à personne. Les pauvres. Donc ça se transcrit dans mes livres par une recherche de déconditionnement permanent, c'est-à-dire que le héros tel que défini par Joseph Campbell, le héros au visage, est un être déconditionné au départ. Parce que si on est conditionné, on ne part pas en quête, parce que les conditionnements nous empêchent de nous mettre en mouvement. Donc c'est retrouver cet état d'innocence finalement, comme Gauvin, ou je ne sais plus si c'est Gauvin ou l'autre, Perceval dans les contes d'Hérald, on l'appelle le niais. Le niais veut dire l'innocent. Et seul l'innocent peut se mettre en route, puisqu'il n'a pas d'a priori. Nous vivons beaucoup sur les a priori, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Et ce que j'essaie de me dégager des a priori. Donc chaque roman est une plongée dans le fleuve humain, dans lequel je plonge corps et âme, vraiment, c'est physique pour moi l'écriture. Hein. Je plonge corps et âme, je me débat dans ce grand fleuve humain, avec toutes ces remous, toutes ces noirceurs, toutes ces fulgurances, toutes ces lumières. J'essaie de saisir des trucs au passage, de façon éphémère, et de remonter à la surface et de ramener à la surface pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Parfois ça fait peur, parce que l'écriture, qui est à mon avis un tamis intime très très fin, va chercher dans le profondeur de l'écrivain des choses qu'il n'a pas envie forcément de voir, pas envie d'explorer, parce que ça dit beaucoup de choses de lui, l'écriture, surtout dans le principe scripturant, hein, je pense que c'est vraiment des plongées immersives, et ramener des choses à la surface, que tu trouves des fois, je trouve ça, mais c'est moi qui ai ramené ça, oui. Donc c'est de se confronter avec ces faces sombres aussi, et donc se connaître mieux, comme disait Socrate. Et je pense que l'écriture sert à ça beaucoup, quoi. Donc pour moi, cette plongée dans le grand fleuve humain, j'ai une faiblesse aussi, c'est de croire que chaque bouquin doit pouvoir permettre de changer chez le lecteur, pas grand chose, hein, mais simplement déplacer d'un point de vue, d'un demi-degré peut-être, mais donc d'avoir du monde une autre vision, une autre facette du monde qui lui permette de réfléchir finalement sur qu'est-ce que le monde. Donc j'essaie d'obtenir ça dans les romans, quel qu'il soit d'ailleurs, quel que soit du space opéra, que j'adore, hein, c'est vraiment le genre que je privilégie, parce que pour moi c'est un bonheur infini de pouvoir plonger dans les univers, de créer des mondes, etc. Découvrir l'univers avec des personnages, que ce soit dans les anticipations, dans les livres des prophéties, il y a eu quelques coïncidences troublantes entre les livres que j'avais écrits et l'actualité de maintenant. Chaque plongée dans un roman doit ramener quelque chose de nouveau. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je n'invente rien, surtout sur le plan scientifique. Je ne suis pas du tout un scientifique, je suis un littéraire. Mais c'est une... c'est une aventure en compagnie de personnages de laquelle j'espère qu'il sort quelque chose. Je ne sais pas toujours quantifier, mais voilà.
D'accord, Pierre.
Désolé de plomber l'ambiance.
Non, mais non, c'est très bien. Non, mais je trouve que c'est...
Comment ?
À quelle occasion vous avez découvert que vous aimiez ce choix,
oui, la spiritualité.
Oui, depuis l'enfance, oui, c'est vraiment depuis l'enfance.
Depuis l'enfance, mais ouais. En fac, vous n'avez pas creusé la chose?
Alors en fac, comme c'était concomitant au voyage en Inde la première année, oui, ça m'a, bien sûr, j'ai appris beaucoup de textes et je me suis intéressé, mais de façon personnelle, parce qu'en fac, j'ai suivi le cursus normal, même si j'ai mis du temps, parce que comme j'étais surveillant d'internat et d'externat, je pouvais faire mes années en 2 ans, c'est un privilège accordé aux étudiants salariés à l'époque. Et donc j'ai pris tout mon temps, mais oui, je me suis beaucoup documenté, j'ai lu beaucoup de textes, ça allait de la Bhagavad Gita, les textes, au Tao Te Ching, toutes ces productions de textes asiatiques, et qui m'ont beaucoup intéressé, parce que ce qui m'intéressait, c'était les enseignements paradoxaux, comme le Tao Te Ching, qui ne permettent jamais de se reposer. C'est-à-dire que c'est jamais figé en dogme, parce que le contraire est dit à chaque moment de ce qui est annoncé. Donc ça m'a beaucoup plu. Je me suis fait initier à un type de méditation qui s'appelle méditation transcendantale, créé par ce qu'on appelle un gourou à l'époque qui s'appelle Maharishi Mahesh Yogi, qui a été aussi le gourou des Beatles, le fameux gourou des Beatles. J'ai fait ça, je me suis rendu compte des limites de ça, je suis sorti de ça, et j'ai lu des textes, j'ai découvert Krishnamurti, qui est vraiment pour moi un maître français, ou des gens comme Ramana Maharshi, qui sont des... dans un livre qui s'appelle La montagne de camphre, par exemple, où il écrit que le monde pourrait brûler comme une montagne de camphre, aussi facilement qu'une montagne de camphre, parce que c'est parfaitement illusoire. Donc je me suis inscrit dans cette pensée-là, plutôt de la recherche de la distinction, qui est une voie finalement shivaïste, hein, si on veut bien aller jusqu'au bout des choses dans la tradition indienne, qui est la discrimination entre le réel et l'irréel, entre ce qui est la réalité et l'irréalité, etc.
À
la fac de Nantes.
Fac d'utopiste.
Ouais.
Il y avait beaucoup de professeurs,
ouais, ouais.
Voilà, qui travaillaient sur l'utopie à Nantes.
Ouais, mais je rends vraiment grâce à mon professeur de littérature comparée, au maître Monsieur Robin, qui m'a initié à la science-fiction, et puis à Monsieur Defoy, qui m'a initié réinitié à l'écriture. Ouais.
Et à quel moment précis avez-vous su que vous étiez écrivain, ça ?
À partir du moment où j'ai publié mon premier livre de science-fiction. En réalité, j'ai écrit Les Grès du Silence, un space opéra, sans savoir que je faisais du space opéra. J'avais lu Dune, mais je ne savais pas classer les choses en genre, en sous-genre, etc. Moi, j'étais vraiment ignorant de la science-fiction, vraiment ignorant du marché de science-fiction et des éditeurs de science-fiction. J'ai fait beaucoup d'erreurs avec ce manuscrit, j'ai envoyé vraiment à des gens qu'il ne fallait pas envoyer, enfin, etc. Et j'ai eu la chance, un jour, j'ai travaillé comme journaliste sportif, qui était une autre activité. Sur les Champs-Élysées à Paris, on est au-dessus du Pub Bruno, c'est en face du Virgin. Et je descends au Virgin et je vois les bouquins de Orson Scott Card, qui est un de mes auteurs favoris par ailleurs, ou les chroniques d'Alvin Neufhauser, la traduction Patrick Couton. Patrick Couton était mon professeur de banjo quand j'étais étudiant. Donc je l'appelle, je lui dis salut, ça fait 13 ans qu'on s'est vu, mais voilà, je m'appelle, je suis Pierre, je ne sais pas si tu viens de moi. Oh, il me dit très bien, Le Vendéen, il m'appelle Le Vendéen, donc c'était connoté. Et je lui dis, voilà, alors c'est toujours le bon copain qui essaie de refiner un manuscrit. Je lui dis, j'ai un manuscrit. J'ai écrit dans mon tiroir. Donc, est-ce que tu crois que l'Atalante n'avait pas publié d'auteurs français en science-fiction jusqu'alors? Ils avaient publié Moorcock, Card, Pierce Anthony, enfin, etc., mais pas de français. Et je lui dis, tu crois qu'ils accepteront un manuscrit d'un auteur français? Il dit, on ne sait jamais, tu peux toujours l'envoyer. Donc j'ai envoyé l'Atalante et 3 semaines après, j'en suis un coup de fil de Pierre Michaud, fondateur d'Atalante, qui me dit, Pierre Bordage, oui, j'ai lu votre manuscrit, oui, c'est bourré de défauts, oui, super, il faudrait veiller à mieux définir les méchants, oui, et puis il me fait toute la liste des défauts du livre, et puis à la fin, moi j'y tiens plus, je dis, mais vous voulez faire quoi de ce bouquin? Il me dit, mais le publier, bien sûr, et puis je suppose que vous avez prévu un tome 2 et 3, je dis, oui, pas du tout, bah ouais, bien sûr. Et il me fait un contrat pour le tome 2 et le tome 3 aussi. Donc la confiance qu'il m'accordait était énorme à ce moment-là, mais je lui ai dit, d'accord, je veux bien, à condition que je réécrive entièrement le premier, parce qu'il avait 8 ans, je trouvais qu'il avait vieilli, je trouvais qu'il avait des défauts, et j'ai voulu le réécrire. Il me dit, ça m'arrange, fait comme ça, si vous le saisissez sur un ordinateur, comme je n'avais pas fait sur ordinateur à l'époque, ça fera le fichier électronique, ce sera plus facile pour moi. Je dis, ok, alors on a fait ce marché-là. Et en même temps, j'ai eu la même période, j'ai eu la série des Roëls à faire pour remplacer une série qui s'appelait L'Aventurier des Étoiles ou Presse de la Cité. Et donc, je me suis retrouvé à écrire plein de bouquins d'un seul coup. À l'âge de 38 ans, et je me dis, ben voilà, c'est peut-être le moment de s'installer en tant qu'auteur. Et j'ai tenté le pari, et depuis 93, ça fonctionne.
Oui, pour notre... Alors, juste, Jean-Michel, je termine, hein, d'accord, l'entretien. Et puis après... On laisse les questions pour le public. Donc, juste une dernière question, Pierre, c'est la question qui tue. Parmi les titres de l'écrivain Pierre Bordage, quel est ton roman préféré? Et pourquoi?
Horrible. Parce qu'on demande à une mère de quel ses enfants préfèrent. Elle en préfère certainement, elle ne va jamais le dire. Donc, alors, chaque roman est une aventure différente. Chaque roman m'a coûté quelque chose. Chaque roman m'a apporté des choses. Même le plus petit. Même les trucs de commande comme Nuit Lumière en IS-3. Ou même Graine Immortelle qui a été fait dans le cadre d'une collection avec différents auteurs d'Henri Herdal sur les personnages communs et tout ça. Alors, chaque roman m'a été... parfois douloureux, parfois joyeux, parfois... Enfin, j'ai traversé toutes les émotions en écrivant les romans. Certains sites, comme les Griots Célestes, ont été marqués par la mort, par exemple. Ce qui était difficile. Ce qui était très très difficile à écrire. Et donc, j'ai écrit dans un état de souffrance assez incroyable. Et je les ai jetés à l'éditeur plutôt que remis, en disant, dès maintenant, je ne peux plus en entendre parler. C'était comme une patate chaude, je ne pouvais plus la supporter. Et... donc j'ai tendance à avoir une aversion pour ce roman parce qu'il me rappelle des émotions négatives. Mais quand je discute avec des lecteurs, Griots Célestes, c'est peut-être le moins vendu de mes cycles de space opéra. Alors ceux qui aiment Griots Célestes, ils aiment vraiment à fond Griots Célestes. Et j'ai l'impression que c'est un public plus mûr, plus bercé par l'idée de la mort, enfin plus préoccupé par l'idée de la mort. Pourquoi? Parce que le roman, il est basé sur l'effacement perpétuel des griots qui, quand ils vont sur un monde, savent qu'ils ne verront jamais les personnes à cause de la relativité, hein, cette bonne vieille relativité d'Einstein. Sauf qu'ils se baladent sur un truc qui s'appelle la Caldria, donc personne ne sait ce que c'est, mais bon, c'est pas très grave. Et donc, ils ne peuvent pas nouer d'amour, hein, ou s'ils nouent des amours éphémères, enfin, elles seront éphémères, et ils seront condamnés à ne plus revoir les personnes qu'ils ont aimées. Donc ça les oblige à un effacement permanent et à un apprentissage permanent de la perte. Donc c'est la mort en fait. Et les gens qui aiment ce cycle l'aiment vraiment de façon passionnelle. Quoi. Et donc je m'interdis tout jugement, alors pour répondre à la question, je me suis interdit tout jugement sur mes bouquins, parce que c'est pas forcément ceux qui m'ont procuré le plus de jubilation à écrire ou le plus de fierté à écrire qui sont les plus appréciés par le public. Le public... a des préférences diverses et variées, et chacun y trouve son compte quelque part dans les livres. Il y en a, ça va être l'Évangile du Serpent, il y en a, ça va être Les Guerriers du Silence, il y en a, ça va être Wong, il y en a, ça va être Les Fables de l'Impur. Fables de l'Impur. Ça, c'est probablement le roman qui m'a apporté le plus de jubilation à l'écriture, parce qu'il y avait un jeu avec la langue que j'ai beaucoup aimé. Quoi. J'ai beaucoup aimé travailler sur la langue, au point que je projette de faire un roman avec une apparition d'une lettre dans la langue française. Parce que je suis... C'est peut-être que ce que j'ai retiré de la fac, c'est l'aspect linguiste des choses, et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Les Guerriers du Silence, évidemment, est quelque chose de particulier parce que c'est mon premier et que c'est un jaillissement de source. Quasiment, j'avais été bloqué dans mon écriture pendant jusqu'à l'âge de 30 ans et quand c'est parti comme un geyser. Quoi. C'est-à-dire que si vous voyez le cahier à la Bibliothèque nationale de France, vous verrez qu'il n'y a quasiment aucune rature. Il y a des dessins à côté et en plus, c'est bizarrement écrit parce que c'est un grand cahier à petits carreaux, c'est le côté écolier. Et chaque ligne des petits carreaux est remplie et l'autre côté, c'est entièrement vide. Pas très logique, mais c'est comme ça. Et ça me permettait de faire des dessins à côté, des plans, des visages. J'ai toujours crayonné à côté de l'écriture. Donc, je n'ai pas de préféré vraiment, ou alors je me méfie de mes préférences. Je pense que chacun des livres que j'ai écrits a été une pierre, sans jeu de mots, dans l'édifice global, avec des fois des faiblesses. Je suis conscient que certains romans ont beaucoup plus de faiblesses que d'autres. Je pense qu'il y a des romans mieux aboutis que d'autres, Il y a des romans où l'écriture est beaucoup plus expérimentale. Ça, ce sont tous les livres du Diable Vauvert, où j'ai une écriture plus contemporaine, parce que les aventures sont beaucoup plus contemporaines. Hein, c'est Porteur d'âme, c'est Feu de Dieu, c'est l'Évangile du Serpent, l'Ange de l'Abîme, etc. Où je me suis essayé à des expériences littéraires, tout en essayant d'être le plus fluide possible dans l'écriture. Et puis c'est venu comme ça, encore une fois, les expériences littéraires, par exemple dans L'Ange de l'Abîme, où il y a deux lignes narratives, c'est-à-dire il y a une ligne avec les deux personnages principaux qu'on retrouve de tous les chapitres alternés, et une autre ligne narrative où ce sont des scénettes qui sont reliées les unes aux autres par des personnages secondaires. En gros, vous avez une scène avec un personnage secondaire qu'on retrouve personnage principal dans le chapitre suivant, puis un autre personnage secondaire du chapitre qu'on retrouve personnage principal, etc., qui crée une deuxième chaîne narrative qui conduit au même endroit que la principale, que la chaîne, enfin que la ligne narrative première. Quoi. Donc voilà. C'est un téléphone ou... ouais. Je crois que c'est un sifflement d'admiration, mais bon.
Vous ne vous y perdez pas.
Comment ?
Ben,
c'est ce que je disais. Maintenant j'ai le cahier avec. Quand je me suis perdu quelque part sur le plan chronologique, j'ai inscrit ça sur une ligne chronologique précise et j'ai réussi à me repérer comme ça. Et puis il y a la relecture globale qui fait que tout va solidifier. Si j'ai laissé passer des incohérences chronologiques, il y a ma relecture à moi, puis la relecture de l'éditeur qui en général vont pallier mes incohérences. Mais en revanche, j'ai ma journaliste pendant 4 jours à la maison qui fait un livre d'entretien avec moi. Et il m'a parlé de scènes que j'ai complètement oubliées. Il y a tellement de personnages, de foisonnements de personnages et tout ça, qu'il faut qu'il me parle de certaines scènes pour que je me les remémore et que je fasse un effort de mémoire pour dire « Ah bah oui, il y avait ça, puis ça, et puis je reprends le cas, ah bah oui, il y avait ça aussi. » Je suis vraiment... Je pense qu'une fois les livres sortis de moi, et c'est pour ça aussi, pour finir de répondre à la question des préférences, une fois les livres sortis de moi, ils ne m'appartiennent plus. Je ne parle pas des contrats, d'accord. Je parle pas sur le plan de la propriété intellectuelle, mais sur le plan de l'histoire des livres. Ce sont les lecteurs qui s'en emparent, les lecteurs qui les réinterprètent, les lecteurs qui vont préférer les uns ou les autres, je ne sais pas. Et ils appartiennent aux lecteurs, quoi. Vraiment. Moi, ils sont sortis, ils sont partis. Donc ils grandissent après dans les mains des lecteurs.
Alors, on va passer aux questions. Alors, il y avait Jean-Michel.
Ouais.
Tu vas parler un peu plus fort.
Projet Roel, on dirait un truc de thriller. Ouais, c'est ça, Roswell. Projet Roel, donc l'aventurier des étoiles. J'avais donné mon manuscrit des Gains du silence à quelqu'un qui s'appelle Bianca Van Erot, qui était une éditrice des presses de la cité, chez Gérard de Villiers, Vaugirard, d'accord ? Ils faisaient SAS et puis le Brigade Mondaine et tout ça. Mais ils avaient une série de SF qui s'appelait Aventurier des étoiles, qui est une série super honorable, enfin que dont j'aimais bien les épisodes. Et quand ils ont reçu mon manuscrit, elle l'a lu, elle m'a dit j'aime beaucoup, mais je ne peux pas faire ça parce que moi, c'est le petit bouquin. Série apparaît tous les 2 mois, donc je peux faire ça, mais si l'opportunité de créer une série de science-fiction se propose auprès de la cité, je ferai appel à toi. Et l'aventure des étoiles s'est arrêtée au numéro 32, je crois, comme ça, où il retrouve enfin la Terre. Voilà.
Ah, vous l'avez atterri.
Vous l'avez atterri sur la Terre, ouais, c'est ça. Attends, Georges, je vais me préciser tout ça.
J'ai écrit un numéro 33 qui est le...
J'ai pas lu celui-là.
J'ai commencé à redécouvrir la Terre, mais il n'a jamais achevé cette redécouverte de la Terre.
Voilà, bon. Cette précision était opposée. On m'a dit, reprends la série, on te propose une nouvelle série, mais dans l'idée de l'Aventurier des étoiles, du Marais Saga, avec un héros solitaire qui va de planète en planète. C'était la seule obligation que j'avais. Et donc j'ai réfléchi et j'ai créé le personnage de Roel qui, alors que Dumarest recherche la Terre, lui recherche, enfin, va de planète en planète pour rechercher pour récupérer sa fiancée qui a été enlevée par un mystérieux cartel, les Garlous, etc. Et puis c'est né comme ça. Et puis, alors Roel, c'était intéressant pour moi parce que ça m'a permis vraiment d'expérimenter l'écriture à temps plein, quoi. C'est-à-dire vraiment, il fallait fournir. Et, j'avais pas le et ça m'a permis d'explorer plein de choses différentes parce qu'il y a de la fantaisie dans Roel, alors que c'était un univers de science-fiction, enfin de space opéra. Il y a de la fantaisie pure. Tout le cycle de Lucifal est un cycle de fantaisie. Donc ça m'a permis de jouer avec les éléments, de jouer avec les personnages, de faire plein de choses. Et donc ça m'a beaucoup plu de travailler cette série. Ouais, à chaque fois c'était un monde différent. Des mondes des eaux, des mondes plus telluriques, des mondes de feu. Enfin, ouais. Je me suis beaucoup amusé à faire l'horreur. Puis ça m'a permis de m'installer en tant qu'auteur. Et puis la Talente, pour finir les Roëls, la Talente, j'ai récupéré mes droits parce que je suis allé voir Gérard Demilly un jour et je lui ai dit qu'est-ce que vous voulez faire des Roëls? Il me dit vous voulez les droits? Je lui ai dit bah, si vous voulez, je vous les donne. Bon, d'accord. Donc j'ai repris les droits et j'ai proposé la Talente et la Talente a refait en 3 omnibus. Et la Talente, ils ont été sidérés de voir comment ça s'est vendu. Ça les a surpris et puis ça continue de se vendre par le biais du numérique parce que on propose, on revient au formatage de départ, c'est-à-dire 14 volumes à un prix très accessible, très compétitif et ça se revend très bien maintenant par le biais du numérique. Donc c'est toute une aventure qui continue en fait, c'est ça qui est marrant.
Okay. Gilles, peut-être et après Monsieur. Oui, vas-y.
Sur mes rêves pour écrire, j'ai l'impression que ça se passe ailleurs, dans un autre état, qui serait plus l'état de la transe que l'état du rêve, la transe en tout bien, enfin, transe pas la transe spectaculaire, vaudou, ou quoi que ce soit, mais une sorte de communication. Pardon ? Je ne sais pas ce que c'est que l'aspect hypnagogique, ça me plaît beaucoup. Ouais. Où j'existe le moins possible. J'essaie d'appliquer cette maxime du Tao qui dit qu'une fois l'œuvre accomplie, ben l'auteur s'efface. Moi, c'est en s'accomplissant que l'auteur s'efface. J'ai l'impression que plus je m'efface dans l'écriture, et mieux le livre se porte, parce que sinon, l'ego récupère tout et devient. Par exemple, si mon ego. Je vais faire une scène super d'anthologie qui va défoncer sa race, et puis que je le fais, et puis que l'éditeur me dit cette scène est parfaitement inutile. Là, j'ai compris que voilà, c'était juste, je me suis fait plaisir, mais j'ai fait plaisir à personne d'autre que moi. Quoi. C'est pas très intéressant. Donc, j'essaie vraiment d'être le plus à l'écoute possible de ce qui se passe. Et vraiment, mon rôle, c'est vraiment de mettre l'écriture au service de ce qui se passe le plus simplement possible. Après, il y a toujours ces vantardises de stylistes, tu vois, qui peuvent m'arriver. C'est-à-dire, oui, je mets un. J'aimerais être considéré comme un grand styliste de littérature, c'est un peu plus perdu. Donc je me contente de travailler de façon musicale jusqu'à ce qu'il y ait plus de fausses notes dans la portée. Quoi. Parce que ce que je disais tout à l'heure par rapport à la belle phrase que j'ai trouvée, par exemple, c'est un éclat qui crucifie les ténèbres. Moi je trouve ça joli, quoi. Mais les gens ne trouvent pas ça très joli en fait. Et donc je vire. Et des fois ça m'arrache un peu le cœur quand mon éditrice me dit, Mireille m'a dit. Ceci est parfaitement inutile, voire légèrement ridicule. Ping. Ok. Et dans les Roëls, ce qui m'a aussi beaucoup appris, c'est Bianca qui, lors des dialogues, me dessinait une tasse de tisane dans les marges, en disant c'est vachement ennuyeux ton truc. Tout ça parce que je pensais qu'il fallait reproduire le langage réel. Or, dans le langage réel, on parsème nos expressions de locutions inutiles. Tu vois ce que je veux dire, enfin tout ça. Et moi, je pensais qu'il fallait le mettre pour faire réel. Or, et là, les scénaristes américains des séries m'ont donné une sacrée leçon, c'est que ce sont des dialogues stylisés qui sonnent réels. Ce qui est très différent de « je veux imiter le réel ». Donc, j'ai énormément de mal maintenant à mettre un oui ou un non dans un dialogue. Il faut que ça prenne à rebrousse-poil complètement ce que vient de dire le personnage d'avant, parce que le dialogue est un moyen extraordinaire, très économique, d'apporter des informations et de faire vivre le personnage. Donc on n'a pas de temps à perdre des oui, mais non, mais non, comment donc, mais on a bien lutté, tout ça. Donc j'élimine tout ça pour aller à l'essentiel, ce qui fait normalement sonner vrai les dialogues. Quoi. Alors qu'ils ne sont pas vrais du tout. J'étais sidéré, par exemple, dans la série des Good, la façon dont Soringen, le patron du bordel, s'exprime, c'est du Shakespeare à l'état pur, et c'est parfaitement plausible et parfaitement audible. Et c'est une économie de moyens qui décrit le personnage assez saisissante.
Merci. Monsieur ça,
ouais. Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, je vous interromps, mais je me suis dit, j'ai envie de le voir.
Qui
j'ai envie de voir. Et donc, je vais simplement peut-être travailler pour le cinéma. Parce qu'il y a des fois, on aimerait voir.
Oui, je suis un peu cher pour le cinéma français. Je suis... C'est-à-dire que, vous savez, le budget moyen d'un film en France, c'est 6 millions, mais pour faire un Avatar, c'est 350 millions, 500 millions, je ne sais plus, 500 millions de dollars, je crois. Et Besson, là, il est à 170 millions pour Valérian, je crois, un truc comme ça. Donc, ça donne une échelle financière des films, qui est une industrie. Donc, on parle vraiment d'argent. Quand vous arrivez dans le producteur en disant, allez, j'ai trouvé une super histoire, c'est 1000 milliards de vaisseaux arrivés un jour sur Terre, on va en garder un, ça ne dérange pas. Et si on pouvait le transformer en voiture, ça m'arrangera.
Alors, en plus, ils font des chèques en bois.
Oui, en plus. Donc, oui, oui, les Dames Blanches, je sais que j'ai mon fils qui est à la fois metteur en scène et comédien, qui aimerait bien adapter les Dames Blanches en saison, en série, comme ça se fait avec plusieurs saisons, etc. Donc il y a eu deux projets hein, sur les bouquins. Il y a eu les Fables de l'Impure. Parce que les frères Guillaume, qui sont deux réalisateurs suisses, ont adoré. Voilà, c'est ça, j'ai retrouvé le nom tout à l'heure, que je cherchais du dessin animé, c'est Max & Co. Qui ont fait Max & Co, avec des marionnettes faites spécialement à Manchester, hein, dont s'est servi Tim Burton pour ses noces funèbres. Ils sont tombés amoureux du bouquin des Fables de l'Impure, et ils veulent absolument, ils ont voulu absolument l'adapter au cinéma. Ils ont confié donc un producteur à acheter les droits. Malheureusement, Max & Co. a ruiné ce producteur, parce que c'est un film qui a coûté 30 millions et qui n'a rien rapporté. Et donc, ça s'est arrêté. Puis, un autre producteur est revenu et a racheté les droits. Et on a confié la rédaction du scénario à Vincent Gessler, qui est un auteur suisse de l'Atalante. Il y a une colonie suisse à l'Atalante, il faut savoir. Il y en a plusieurs. Il y a Olivier Sillig, il y a Laurent Sunner, etc. François Rouillet maintenant. Enfin bon, bref. Et je ne sais pas où ça en est. Je ne sais pas s'ils ont les financements. Je ne sais pas. Ils cherchent des financements européens plutôt parce que le projet dépasse un simple cadre suisse. Et puis j'ai eu quelqu'un qui voulait adapter Wang depuis 10 ans. Il essaie d'adapter Wang, il a essayé par tous les biais, tout ça, il n'a pas trouvé le financement. Donc c'est extrêmement compliqué parce que vous parlez tout de suite de 30 millions, 40 millions d'euros pour faire quelque chose de crédible en science-fiction. On est obligé de mettre les moyens. Bon, ceci dit, j'ai participé à deux films de science-fiction qui sont des œuvres originales que personne n'a vu dans la salle, j'espère. Enfin, si, Laurent, les deux.
Et là,
Eden Log et Dante 01.
Ah,
Eden Log, Dante 01, si vous voulez voir le scénario original de Dante 01, il faut acheter le bouquin publié chez Delcourt dans la collection Storyboard. Où ça avait été storyboardé par Jess et Blanchard, et donc ça a été publié dans son intégralité. Mais il y a eu vraiment des gros problèmes de production dans Dante 01 qui fait qu'il n'a pas pu faire la fin prévue, il n'a pas pu retourner certaines scènes, et donc ça fait le film pâtit d'un manque de moyens, sachant que l'éditeur qui avait par ailleurs prévendu tout en vidéo à l'étranger, tout ça, donc était rentré dans ses billes. Il ne voulait pas que ça dépasse le budget, donc il était terriblement. Il surveillait énormément le tournage et interdisait tout dépassement. Et donc il y a une quantité de scènes industrielles qui auraient mérité d'être retournées, qui ont été supprimées. Donc ça nuit considérablement à la compréhension du film. Quant à Eden Log, c'est Franck Vestiel, qui est assistant de Caro dans Dante 01, qui m'a contacté parce qu'il avait une idée, il avait une vision, et il voulait que je l'aide à mettre de l'ordre dans sa vision, de faire une histoire. Et Et je lui ai proposé environ 50 versions de scénario, et ça ne convenait jamais. Donc il m'a dit à un moment, bon, j'ai assez d'éléments, je me débrouille avec tout ça. Et je ne sais pas si vous avez vu le film. Il y a quelques difficultés de compréhension par moment, parce qu'on n'a pas réussi. J'ai pas réussi à mettre de l'ordre dans son esprit qui était très fouillis. Et j'étais là pour ça, mais j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à capter ce qu'il voulait. Et comme lui, il captait pas non plus ce qu'il voulait. On a eu un peu de mal à écrire ce truc. En revanche, il a tourné avec un budget d'1,8 million, ce qui est une performance, dans une champignonnière dans les Yvelines, avec Cornillac et tout ça. Il a un aspect visuel très très intéressant, en revanche. Ce qui lui a valu d'être invité à Hollywood, d'ailleurs, pour voir s'il pouvait bosser sur Hollywood. Et il ne l'a pas fait parce que ça ne lui a pas plu. Il avait tourné aussi une série de police avec Clovis Cornillac, c'était Police Nuit, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Un truc qui se passe la nuit avec des flics, quoi, en gros. Et il avait tourné quelques épisodes. Okay. Donc le cinéma et la science-fiction en France, alors qu'on est dans le pays de Méliès quand même, ça a beaucoup de mal à se... Peut-être qu'il y a plus de débouchés, ça, Laurent, pour nous en parler, dans le jeu vidéo, puisqu'il y a des boîtes comme Ubisoft qui quand même sont assez ambitieuses sur le plan narratif. Mais le cinéma, c'est extrêmement dur, et la série, je ne vous en parle même pas, parce que une fois j'ai été invité... Des producteurs ont demandé à me voir pour faire une série de science-fiction en disant ouais, « c'est super ce qu'ils font avec du bio, on veut faire pareil, on veut faire des grosses séries qui déchirent, qui font de la SF et tout, proposez-nous un sujet de SF. » Et moi je planche sur un sujet de SF et je propose un sujet de science-fiction et ils me disent « c'est un petit peu trop science-fiction pour toi. Peut-être que vous devriez essayer pour le cinéma. Voilà. » En gros, si vous n'avez pas un projet qui a que Minimati ou... Roger Alain, mais non, c'est trop tard pour lui, ça va être difficile de monter des projets. Quoi. Et j'ai bossé pareillement, j'ai bossé sur au début des Revenants, vous savez, la série Fantastique.
Ah oui.
Ouais, mais j'ai quitté très très vite parce que, d'une part, il faut habiter Paris pour écrire des séries parce que vous avez trois à peu près réunions par semaine avec les responsables du projet qui vous font écrire systématiquement tout. Donc c'est beaucoup de perte de temps. D'autre part, il m'avait demandé de trouver une explication de nature science-fictive. Moi qui ne suis pas scientifique, j'ai quand même réfléchi, je fais un virus, enfin j'ai fait tout ça bien. Et on m'a dit, ah oui, mais ça, plutôt pour la troisième saison. Et puis je bossais avec un autre scénariste qui s'appelle Nicolas Peufailly, qui a disparu lui aussi des génériques. Et c'est ça retrouvé Emmanuel Carrère, qui est un auteur de littérature générale, qui s'est retrouvé au scénario final. Donc, de l'ambitieux projet, parce que c'est tiré d'un film de Romain Gambillo qui s'appelle Les Revenants, qui est un film très poétique, moi j'ai beaucoup aimé, mais qui a une ambition démesurée, parce que dans le film de Romain Gambillo, tous les morts renaissent, ce qui crée des problèmes insolubles à tous les niveaux. Comment réintégrer des morts? Et nous, on envisageait tout, quoi, le camp de concentration pour les morts, enfin les morts vivants. Le problème, par exemple, de succession, vous avez hérité de quelqu'un qui revient, vous faites quoi sur le plan juridique? Ça posait tout un tas de problèmes, mais ils ont très vite abandonné cette idée parce que je pense que le gigantisme du projet devenait insoluble. Et donc ils ont opté pour le classique petit truc qui se passe à la montagne, dans un village clos, isolé, etc. Donc d'un machin immense de science-fiction, vraiment un très beau thème que n'importe quel auteur de SF aurait pu écrire avec des développements incroyables sur 10 volumes au moins. On s'est retrouvé dans un petit village de montagne avec un procédé plutôt fantastique.
Voilà. Quels sont les écrivains étrangers
que j'ai lus
le plus influencé?
Alors, Orson Scott Card, par exemple pour la stratégie Ender et le maître chanteur, et aussi pour les chroniques David Neufeuser, bien que je connaisse le personnage très bien et que je n'ignore rien de son militantisme mormon, qu'on peut retrouver aussi dans les bouquins en filigrane, mais qui reste un vrai auteur dans le sens où ses personnages sont déchirés et ses histoires passionnantes. Herbert, avec Dune, évidemment, Asimov avec Fondation, Heinlein avec Enterre étrangère, alors je vous donne des titres, hein, c'est tout, pas forcément toutes les œuvres des auteurs, Van Vogt avec Poursuite des Slings, Slimak avec Demain des Chiens, évidemment. Et puis il y a aussi des auteurs comme le japonais Ishikawa qui a écrit un livre qui s'appelle Le Sabre et la Pierre, qui est un roman épique du médiéval japonais, qui raconte la vie de Miyamoto Musashi, sabreur, ayant écrit le traité des cinq roues. J'ai adoré ce bouquin, vraiment, pour moi, c'est un modèle de roman épique. Donc, c'est pas forcément dans le domaine de l'ASF, il y a eu plein d'influences d'auteurs. D'auteurs classiques français, assez peu. Peut-être Voltaire, j'ai une prédilection pour Voltaire. Peut-être un auteur que j'apprécie énormément, qui est Hermann Hesse, qui a fait un livre de science-fiction qui s'appelle Le jeu des perles de verre. Un auteur qui s'appelle Raymond Abelio, qui fait des bouquins couchés dehors dans la tour de Babel, etc. Donc voilà, c'est des multi-influences qui m'ont nourri, je pense, pas forcément dans le domaine de la science-fiction, que dans le domaine de la science-fiction. J'ai beaucoup aimé aussi Ursula Le Guin dans sa fantaisie de Terre-Mère et ce genre de bouquins. Évidemment Tolkien que j'ai lu, etc. Bob Moran, bien sûr, avec L'Ombre Jaune. Et Bill Ballantyne, et Grand Buveur de Whisky. Moi, j'adorais, hein, j'en ai lu, je sais pas de quantité, j'ai dû tout lire. Et j'ai rencontré Henri Verne, en Belgique, à l'occasion d'un festival, je ne sais plus lequel. Peut-être ou non, d'une signature, ou de la foire, plus exactement, la foire du livre de Bruxelles. Il y a la BD aussi qui m'a énormément nourri. J'ai beaucoup été nourri quand j'étais étudiant de BD underground américaine, aussi bien de Robert Crumb que Wallace Wood, Harvey Korsman, enfin, etc., tous ces gens-là, Pichard et autres auteurs français. Évidemment, Jodorowsky m'a beaucoup influencé dans son mode narratif. J'ai beaucoup aimé les films de Jodorowsky de première période, hein, La Montagne Sacrée, El Topo, Logo, etc. Il y a aussi le cinéma qui m'a beaucoup influencé. Et le séminaire m'a au moins apporté un truc, c'est le Ciné-Club avec Le jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise, qui pour moi a été un vrai claque. Quoi. Quand on peut faire ce genre de trucs, c'est génial. Alors, un robot qui... Quand j'étais môme, moi j'ai jamais vu ça dans la campagne. Donc c'est une multitude d'influences globales, diverses et variées, qui vont aussi bien des auteurs de littérature générale, auteurs de science-fiction, auteurs de fantasy, assez peu de fantastique en revanche. Je ne suis pas très fantastique, bizarrement.
Bien, nous allons. Alors, ouais, on va. Non, mais alors, je vous le dis. Les questions, si vous voulez les poursuivre, hein, Pierre va peut-être faire. Oui, voilà, d'abord il a soif, et ensuite, je pense qu'on va aller prendre un petit peu, ceux qui le souhaitent, hein, prendre un petit peu l'air. Pierre sera peut-être à la piscine si vous voulez poursuivre les discussions littéraires passionnantes. Donc, on va remercier. Voilà, on va remercier Pierre Bordage vraiment pour cet entretien très enrichissant.